Le carnet de santé en ligne du gouvernement québécois, en quoi ça consiste et est-ce que c'est un investissement utile pour la société? Est-ce que ça va améliorer réellement le système de santé? Débat avec Isabelle.
Je sais pas si vous avez entendu parler de ça, Carnet de santé Québec. C'est depuis cette semaine, depuis deux jours en fait, vous avez la possibilité d'aller sur Internet et de vous inscrire. Vous donnez votre numéro d'assurance maladie, vous mettez votre code postal et d'ici quatre jours ouvrables, selon ce que dit le site du ministère de la Santé, vous allez recevoir un code, une espèce de NIP à quatre chiffres qui va vous donner droit à votre carnet de santé. Qu'est-ce qu'il y a dans ce carnet de santé? Ben, il y a toutes sortes d'affaires qu'on savait pas qu'on avait besoin d'avoir, c'est-à-dire accès complètement à tous nos résultats sanguins. Si vous passez des tests, que votre médecin vous demande d'aller faire des tests sanguins, vous aurez les résultats. Vous allez avoir en fait tous les résultats, l'accessibilité à tous les résultats que vous passez. Et ça, évidemment, on se demande, est-ce que c'est bien nécessaire? Hein? Tu sais, dans la catégorie « en avons-nous vraiment besoin? » C'est ce qu'on va voir avec nos invités. Je vais leur demander s'ils pensent que ça va changer quelque chose dans notre vie. Est-ce que ça va augmenter, par exemple, l'accessibilité à un médecin? Est-ce que ça va améliorer les soins, les suivis des soins? Est-ce que ça va nous donner un petit peu plus de rapidité pour voir un spécialiste? Vous savez que c'est un vrai problème au Québec dans certaines spécialités. Le docteur Joseph Daïn est avec nous. Il est médecin spécialiste des soins intensifs à l'hôpital Cité de la Santé de Laval et au CUSU. Merci d'être là.
Merci.
Jean Lacharité est vice-président de la CSN. Merci d'être là, Monsieur Lacharité.
Bonjour.
On aura dans quelques minutes également Régine Laurent qui va se joindre à nous, l'ex-présidente de la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec. Je commence avec vous deux, docteur Daïn. Vous allez nous dire si effectivement vous pensez que les patients ont besoin de tout ça.
Je pense que c'est une bonne chose, effectivement, ouais, pour les patients.
C'est ce que dit le docteur Barrette.
Oui, ben je pense que ça répond à un besoin réel. Quand les gens se font faire des prises de sang ou des tests de laboratoire ou d'imagerie, puis qui sont en attente des résultats pendant un certain nombre de temps, ça peut causer de l'anxiété, à savoir, donc, c'est-tu normal, c'est-tu pas normal, d'avoir accès, de pouvoir avoir les résultats, déjà de savoir que ça a été fait, que ça s'est pas perdu, ça peut rassurer un peu l'anxiété. Fait qu'en gros, je pense qu'il peut y avoir un côté plus risqué, par contre, à la chose, à savoir, si jamais les résultats semblent être anormaux, est-ce que ça va accentuer l'anxiété? Mais si on le voit comme un outil éducatif et pas juste permettre aux gens de se lancer là-dedans, net frais de sexe, sans accompagnement, mais vraiment de les accompagner dans le processus, de se familiariser avec l'outil, avec leurs données médicales, c'est un outil qui va pouvoir vraiment responsabiliser les patients. Puis je l'utilise pas dans un sens péjoratif, là, vraiment en sens de « empower », là, puis ça, c'est une très bonne nouvelle.
Jean Lacharité, comment voyez ça, vous? Vous, je vais d'ailleurs rappeler à nos auditeurs que vous représentez plus de 100 000 employés du réseau de la santé. Là-dedans, il y a justement des infirmières auxiliaires, il y a des préposés aux bénéficiaires, il y a des employés de bureau, d'administration, tout ça. Il y a également toutes les ressources informatiques, c'est chez vous
exactement
que ça se passe.
Ouais.
Donc, à première vue, vous pensez quoi du carnet de santé Québec?
Bien, à première vue, je pense que c'est un pas dans la bonne direction. Quand on regarde ce que ça
fait travailler votre monde.
Ça va faire travailler notre monde, mais ça va aussi, comme le disait, ça va faire d'empowerment pour les patients, je pense. Cependant, ça va être des données plutôt brutes à caractère médical. Alors, quand je vais voir des données, moi, dans mon carnet santé, puis que je suis pas capable d'interpréter, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Si ça devient un bon outil de communication avec le médecin, cependant, le médecin va pouvoir faire de la formation, de l'éducation sur les données médicales et peut-être que je serai plus en mesure de prendre en charge ma santé par la suite.
Maintenant, pas sûr que nos médecins ont du temps pour faire de l'éducation médicale.
Non, ça, c'est l'autre problème.
Il va peut-être falloir leur créer une prime à l'éducation médicale.
Ça, c'est l'autre problème. Si on continue à minuter les rendez-vous, comme le docteur Barrette voulait le faire, pour améliorer supposément l'accessibilité aux médecins de famille, par exemple, si le médecin n'a pas le temps d'expliquer, ça ne sera pas très utile pour le patient à ce moment-là. Donc, il va falloir vraiment qu'on s'en serve aussi comme outil de communication, comme outil d'information pour que je puisse faire une meilleure prise en charge de ma santé. Maintenant, il va falloir que ce soit nettement sécurisé. Bien, là, parce que si il y a des failles dans le système et que, par exemple, des assureurs tombent là-dessus, des employeurs tombent là-dessus et que ça devient un facteur pour ne pas embaucher quelqu'un ou encore ne pas assurer quelqu'un parce qu'il y a des problèmes de santé, là, va falloir voir. Bon, j'espère que ça a été testé de façon très rigoureuse jusqu'ici.
Là, il paraît qu'il y a, quoi, 20 000 personnes qui ont déjà participé au projet pilote, là, qui ont eu lieu au cours des derniers mois. On n'a pas vraiment entendu parler de vous, docteur Daniel, vous alliez dire quoi?
Ben, j'ai essayé de m'inscrire. Pour y avoir accès, faut
au projet pilote, vous voulez dire?
Non, au carnet. Au carnet, là.
Oui. Bon, on a tout essayé, je pense.
Oui,
Régine Laurent, d'ailleurs, qui vient d'arriver.
Oui,
merci
bonjour,
d'être là, Régine. Des Régines aussi s'est inscrite.
Oui,
moi, je me suis inscrite ce matin. Comme on attend notre
code. Le code d'accès.
Mais
j'ai vu déjà que ça prend Clic Sécure. Donc, ça veut dire que c'est le même logiciel sécurisé que pour envoyer les rapports d'impôts.
À Revenu Québec, oui.
À Revenu Québec. Donc, je pense que ça va, si c'est assez fiable pour quelque chose d'aussi crucial que ta déclaration d'impôt puis tes lignes, là, ben, ça devrait être correct et sécurisé pour tes informations médicales. Là.
Je sais, mais oui, mais je me souviens aussi que je pense à Revenu Canada que quand on appelle, on a 3 chances sur 4 de tomber sur quelqu'un qui nous dise une mauvaise affaire.
Ça se peut.
Mais ce que j'ai trouvé, par exemple, c'est
comme,
c'est que
alors, tu sais, si on appelle au gouvernement pour ça. Oui, Régine.
Ce qui m'a surprise, parce qu'effectivement, le site est très convivial. Là. Quand tu t'inscris, tu te demandes le numéro
super
de carte de maladie puis ton code postal. Sauf que j'ai été surprise d'envoyer ça par la poste. On est vraiment à l'ère de la technologie. Envoyez-moi ça par courriel, par texto, faites quelque chose. J'ai trouvé
complètement.
Ça un peu spécial.
Oui, mais
c'est
moi, je me suis dit, au moins, ils me demandent pas de faxer ma maudite demande. Moi, je me suis dit, on avance. On avance. Au moins.
Mais le site est très convivial, par exemple, pour s'inscrire. Là, c'est la première étape que j'ai faite. J'attends d'avoir ça dans mes 4 jours ouvrables pour continuer.
Ouais. Mais qu'est-ce que vous en pensez? On va revenir parce que là, vous avez mis le doigt sur quelque chose, Régine, parce que, ben, parlons-en maintenant. Moi, ce qui m'a fait sauter, c'est que les jeunes de 14 ans à 18 ans moins un jour, eux, l'inscription va se faire par téléphone dans leur cas parce qu'ils veulent pas que les parents, par inadvertance ou consciemment, ouvrent le courrier de leur enfant et puissent avoir accès au dossier médical de leur enfant. C'est comme ça, là, en ce moment. Je peux vous dire qu'en ce moment, je suis dans le système médical avec mes enfants. Là.
Ouais.
Moi, me faire dire, chut, maman, s'il vous plaît, là, votre enfant a plus de 14 ans, fait que s'il vous plaît, vous n'avez pas votre mot à dire. Moi, ça me fait, là, il n'y a pas de mots, comment que ça me fait sauter.
Mais...
Alors, lire ça, là, que si le code de sécurité était transmis par la poste, comme c'est le cas pour les adultes, les parents auraient le droit d'ouvrir le courrier à expliquer le ministre Barrette, ce serait bien épouvantable qu'on ait le code du dossier médical de notre enfant de 14 ans. Moi, je n'en reviens pas.
Mais
on est là,
loi.
Par exemple. Mais on sent... Ouais.
C'est ça.
C'est la loi. Peut-être que la loi est
oui,
pas bonne.
Oui, parce qu'il y a des choses à partir, vous avez raison, à partir de 14 ans, ils peuvent consentir à certaines choses et on leur garantit la confidentialité. Puis là, je comprends, vous parlez d'une famille où la relation est extraordinaire et tout ça, puis c'est pas, peut-être pas le cas de toutes les familles.
D'accord, mais on peut-tu gérer les lois pour, disons, 80% des familles au Québec, je pense, ou mettons 70, là? Si on voulait être conservateur. Est-ce qu'on peut dire que dans 70% des familles au Québec, les jeunes ont des plutôt bons rapports avec le parent?
Ouais.
Ce que je veux dire, mais ça, c'est un autre dossier. Puis je vais fermer la parenthèse, c'est pas que je vais m'énerver. mais je trouve pas ça normal. Ton enfant a un problème de santé mentale, veut s'enlever la vie. T'as-tu le droit de le savoir? Comme parent, t'as juste le droit de gérer puis de payer au bout de la ligne, par exemple. Je trouve qu'il y a quelque chose de pas correct là-dedans. Et si j'allais en politique, je m'y attaquerais certainement.
Bon, ben, il n'est pas trop tard.
C'est en octobre, vous avez.
C'est le temps des campagnes.
Oh, mon Dieu!
On a un scoop ce matin.
Non. Régine, votre opinion sur le carnet de santé. Évidemment, on a un médecin qui est pour.
Ouais.
On a un président de syndicat qui dit, attention, comment ça va être géré. Une ancienne infirmière qui va dire quoi?
Moi, j'ai dit, je trouve ça joli, mais je demande, c'est l'utilité. Je suis pas branchée, je demande l'utilité. Et ma réflexion était la suivante. Moi, mon besoin, comme citoyenne, comme mémé de mon âge, j'ai besoin de savoir si je suis à Sept-Îles ou à Rimouski, que j'ai quelque chose, que le médecin qui va me recevoir ait accès à mon dossier.
Ouais.
On a dépensé quelques huards pour cette affaire-là, n'est-ce pas? Ça, c'est mon besoin.
Là, vous parlez de quel dossier? Parce qu'on est mêlés là-dedans. Là.
Ben, dossier informatique, dossier Santé Québec. Écoutez, c'est des...
Non, mais c'est pas la même affaire.
Beaucoup, beaucoup. Je vous dis, je réponds de mon besoin.
OK.
Alors, quand je vois le carnet santé, j'ai dit mise en garde des hypochondriaques, n'y allez pas.
Ouais. Inscrivez-vous pas.
Inscrivez-vous pas, c'est pas bon. Deuxième affaire, c'est que je me suis dit, OK, ça répond aux besoins de qui? C'est-à-dire que moi, avec ma formation, je vais pas paniquer si je vois que ma glycémie le matin était à 6,3.
Ouais.
D'accord? Parce que ce qu'on dit là-dedans, puis j'ai hâte de le voir, c'est qu'on va mettre les valeurs.
On va mettre le barème.
On va mettre le barème.
Les moyennes, genre.
Les moyennes. Ouais. Donc, si on me dit c'est en bas de 6, puis moi je suis à 6,3, ce qu'on dit aussi, c'est que vous pouvez appeler le 811. D'accord? Bon. J'espère qu'ils vont mettre ben du monde de plus parce que c'est le 6,3, pour continuer dans mon exemple, c'est peut-être bon pour moi, puis c'est peut-être à se poser des questions dans votre cas. C'est qu'il faut voir la santé dans sa globalité et non pas un seul paramètre. Alors, c'est pour ça que je sais pas c'est quoi l'utilité, je la vois pas encore, mais on nous dit qu'il va y avoir d'autres choses. Fait qu'on va attendre.
Moi, comme économiste, ouais. Régine est infirmière, ouais. Ça va lui dire quelque chose. Mais moi, comme économiste, ça ne me dira absolument rien.
Es-tu hypochondriaque?
Non, je suis pas hypochondriaque, mais ça me dira absolument rien.
Non, mais
alors...
quand même sans être hypochondriaque.
Non, je blague.
Je disais, non, mais ça peut, c'est très sérieux. Il y a des gens, effectivement, qui vont vraiment faire de l'anxiété là-dessus.
Non, mais ce que je veux savoir, ouais. C'est qu'est-ce que ça veut dire.
Voilà.
Alors là,
on va aller sur Wikipédia.
C'est une ressource médicale pour.
On va aller sur Wikipédia pour voir Dr. Diane.
Mais je pense qu'il faut pas sous-estimer non plus les gens. Des fois, l'outil, une fois qu'il va être dans les mains de l'utilisateur, ça va se transformer en quelque chose de possiblement très constructif, très beau. Puis ça, il y a des exemples patents en médecine de situations qu'on soupçonnait être très complexes, mais qu'une fois que les patients se sont appropriés la technologie, ils le faisaient mieux que des professionnels de la santé.
Comme quoi?
Par exemple, la dialyse. Il y a vraiment des gens qui se sont dit, ben comment ça se fait que c'est une infirmière qui doit venir nettoyer mon cathéter de dialyse? Il y a personne qui veut que ce cathéter-là soit aussi propre, aussi stérile, aussi bien nettoyé que moi. Mm-hmm. Ma vie en dépend. Je veux pas avoir des infections attrapées à travers ça dans un milieu hospitalier. Mm-hmm. Je vais m'en occuper moi-même, débuter, stériliser, fermer mon cathéter de dialyse. Et ça, c'est un mouvement international de patients qui s'appelle... Non, mais juste pour faire un parallèle, dans le sens où il y a un mouvement qui s'appelle de patients, qui a été débuté par des patients, qui s'appelle « We are not waiting anymore
mm-hmm. ». On a Éric avec nous. Je pense que vous travaillez dans le milieu de la santé, Éric.
Oui, Isabelle. Je suis en psychiatrie. Et moi, là, j'ai un gros concern avec ça. Mais imaginez-vous un psychiatre qui fait un diagnostic. Et la personne retourne là-dedans puis commence à lire ça. La personne était en psychose, est traitée, puis elle regarde les notes du médecin, elle peut carrément dire, regarde, c'est assez, là, moi, je me suicide, j'étais à haut risque de rechute. T'sais, moi, je comprends pas, là, pourquoi avoir accès à des informations qu'on n'est pas capable, qu'on n'a pas la compétence de les interpréter puis les vérifier. Là, on rouvre une boîte de Pandore. Je suis persuadé que ça va faire un fouillis. Ceux qui vont être contents là-dedans, c'est les avocats spécialisés en santé.
Ah oui, vous pensez? Ouais. Merci, Éric.
Ce que je comprends, c'est que
il nous reste une minute.
C'est le problème du mur à mur dans le réseau de la santé.
Ouais, c'est ça.
Madame qui a appelé tantôt, qui a une situation complexe, c'est extraordinaire. Je suis contente pour elle parce qu'on sent que ça la sécurise.
Ouais.
Et ça, c'est. Mais pourquoi le faire pour 8 millions? On n'est pas capable dans le réseau de la santé de s'adapter aux besoins spécifiques. Il faut que ce soit tout le monde pareil. Ça n'a pas de bon sens.
Oui, mais en même temps, si on peut comprendre ça, on ne peut pas y aller au cas par cas non plus.
Déjà
qu'on le gère sur une base humaine.
Mais cette madame-là qui a appelé qui a une situation complexe.
Ouais.
Il a fallu qu'elle attende d'avoir le carnet de santé pour être capable d'avoir ça.
Ouais.
Avec toute l'informatique, elle aurait dû avoir accès depuis longtemps et elle sécurisait avec ça.
Mais moi, j'avais compris que c'était le DME, le dossier médical électronique qui allait être ça. Mais évidemment, le DME, il n'est pas connecté avec les hôpitaux, le CLSC.
Ben,
pourquoi qu'on n'a pas juste décidé de connecter ça, le DME, le dossier médical électronique, aux hôpitaux, puis au CLSC, puis à la pharmacie?
Parce qu'on travaille en silo. Oui.
Plutôt que de repartir une autre affaire.
Puis qu'on a pris des firmes de consultants d'informatique et un travail en silo.
Il reste 10 secondes.
Vous avez vu la position de la FMOQ? Il n'est pas question d'obliger les médecins de famille et les médecins omnipraticiens à utiliser le carnet de santé.
Si Diane Francoeur a dit ça vient de finir. Parce qu'on sait bien que c'est elle qui rend le show.
C'est Dr. Godin.
Ah, M. Godin! Ah, les deux, finalement. Merci à tous les trois. Merci.
À venir à l'émission, qu'est-ce que les directions d'école peuvent faire et ne peuvent pas faire pour punir un élève?